Et bien entendu, Catherine Bourderon, qui aujourd'hui a décidé de prendre la parole et de parler de sexualité. Bonjour, Catherine.
Bonjour, Chantal. Je suis très heureuse d'être à côté de toi et pas du côté de la vitre, mais dans le studio.
Ben oui, ça change. Ben c'est d'abord, en fait, on pourrait dire que c'est une chronique littéraire que l'on va faire ensemble, puisqu'on va parler de ce fameux livre de la journaliste Sylvia Galipeau, Derrière la porte, 50 récits intimes, sexuels et pluriels.
C'est ça. Alors aujourd'hui à l'émission, pourquoi ne pas parler de sexualité? C'est un sujet encore très tabou en 2023, je dirais, mais ô combien estival. Alors c'est ça, c'est Derrière la porte, ces chroniques existent depuis 8 ans. Et l'autrice a choisi 50 confidences où elle raconte les petites et les grandes histoires et les rapports intimes de gens ordinaires. Elle s'est promenée un peu partout dans le Québec et les gens lui ont livré des témoignages sur leur vie sexuelle. Et c'est très, très, très intéressant.
Oui, c'est ça. Et les gens, finalement, l'ont beaucoup alimenté au fil des ans aussi. Hein. Oui. En fait, on cherchait à la joindre pour justement témoigner. Il y a eu vraiment un très bel engouement.
Oui. Et d'ailleurs, au départ, l'idée de... Ils voulaient faire quelque chose sur la sexualité. Ils ont dit, bon, on va faire un sondage, puis on va voir ce que nos lecteurs québécois vont nous dire. Alors, elle ne voulait pas savoir, en fait, qu'en moyenne, parce que c'est ça les statistiques, hein, en moyenne, on fait 2 fois l'amour par semaine dans la position du missionnaire.
Alors ça, c'était les statistiques.
Elle a décidé d'inviter.
Mais c'était pas très intéressant, là. Mais, ça manquait de
On rentrera pas dans
punch.
Les détails. Mais elle a décidé donc d'initier autre chose et elle s'est inspirée du Nouvel Obs. Qui était du Nouvel Observateur. Et il y avait une série lancée par Rue 89 qui s'intitulait « Vie de baise ».
Ah oui, ben ça, alors, c'est vraiment donc, une expression calqué... bien française.
Oui, alors elle a calqué donc ses chroniques sur le Nouvel Obs. Et donc... Il y a différents thèmes donc,
ouais,
dans
ça,
son livre.
Il fallait quand même qu'elle cherche toutes ces... Sur 8 ans, là, 50 récits quand même, il fallait bien les identifier, hein, ces récits qu'elle allait mettre dans son livre.
C'est ça. Mais c'est intéressant parce que dans le livre, il y a les couples heureux au lit, les relations à géométrie variable... Mm-hmm. Le travail du sexe, le célibat, la séduction, l'orientation sexuelle, la quête de l'orgasme et des abus. Alors, moi, j'ai lu le livre, évidemment, 5 ans. Ça m'a pris tout l'été. Je suis très contente.
Oui, ben c'est ça. On s'en est parlé au début de l'été, puis tu as dit, bon, pour ta dernière journée, je vais parler de ce livre.
C'est ça. C'est une lecture très intéressante, je dirais, même pas seulement pour l'été. Alors, il y a plusieurs cas de figure ont retenu mon attention. La polyamoureuse dans le placard. Philippe qui veut une blonde et le choc de Viviane. Je vais commencer par Philippe qui veut une blonde. Alors, ouais. Philippe, il a 49 ans, il est célibataire, ça fait 5 ans. Il a un parcours classique. Il est resté 10 ans avec la mère de ses enfants et il a toujours eu des relations stédées. Mais depuis quelques temps, il fréquente plus trop, il s'est mis sur les réseaux sociaux et là, il trouve que c'est le Far West. Ah, oh, surprise, c'est le Far West, aller sur les réseaux sociaux. Et il dit, ce n'est pas dit nécessairement, mais sur ces sites, il y a cette illusion qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur disponible. Alors, il dit, on parle de MeToo, du LGBTQ, c'est correct, mais il y a un combat à livrer. Moi, j'ai mon combat. Je veux juste une blonde.
Et ça, c'est ça m'a... C'est ça, parce que tout le monde a son combat personnel, mais lui, en fait, tout ce qu'il voulait dire, c'est que moi, c'est simple, mon combat. Il n'y en a pas de combat. Je veux juste une blonde.
Il veut juste une blonde et ça m'a beaucoup touchée parce qu'on parle ici de solitude. Chantal, est-ce que tu savais que depuis 2018, le Royaume-Uni a son ministère de la solitude?
Ah, ben ça, c'est intéressant. Oui, Dieu. Je ne savais pas du tout.
Les gens sont seuls. Et tu vois, au Québec, 15% des Québécois vivaient seuls en 2001. Et en 2021, c'est 19%.
Ah oui, c'est en augmentation, en effet. Et puis bon, ben, c'est sûr que la population vieillit en plus. Alors, c'est sûr que là, on est appelé parfois à vieillir seul.
Mais c'est 1 personne sur 5.
C'est pas rien.
C'est 1 personne sur 5. Ouais. Et pourquoi le Royaume-Uni avait décidé donc de faire... a décidé de faire un ministère de la solitude. Ça touche presque... Ben, ça touche 9 millions de Britanniques. Et c'est carrément lié aussi à la santé globale. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été menée par le National Institute of Aging of les États-Unis, et on affirme que être seul équivaut à fumer 15 cigarettes par jour. Notre santé cardiovasculaire, notre système immunitaire, nos risques de développer l'Alzheimer et notre espérance de vie sont influencés par la solitude.
C'est ça. Ben, donc, c'est vrai que oui. On disait que l'espérance de vie était supérieure quand les gens étaient en couple. Ça, je me souviens d'avoir déjà entendu ça. Mais c'est pas rien quand même. Donc, c'est presque un enjeu de
c'est
santé publique.
Mais c'est ça. On dit, c'est ça. Bon, il y a un deuxième cas aussi qui m'a interpellée. En fait, je me dis, est-ce que c'est plus compliqué de tomber en amour en 2023 qu'il y a 20 ans? On en reparlera plus tard, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Il y a aussi l'histoire de Viviane, 42 ans. Elle est restée 15 ans avec un homme. Puis, scénario classique, monsieur a oublié de fermer son ordinateur. Et qu'est-ce qu'elle voit quand l'ordinateur est ouvert? Il était accro à la porno.
Ah, ben oui, c'est ça. Scénario peut-être, oui, classique, façon de parler. Là.
Il a, en fait, il s'est payé 200 prostituées.
Ah.
Et là... Non, c'est pas drôle, excuse-moi. C'est pas drôle, 200, c'est parce que c'est le choc, c'est nerveux.
Non, non,
là, c'est le choc
de
cette révélation.
Mais ce sont des histoires très personnelles, très intimes. Là, les gens, c'est des gens ordinaires. Et puis, effectivement, c'est très sérieux. Là, c'est pas,
200 prostituées, elle se demandait toujours pourquoi il n'y avait pas d'argent. Et donc là, évidemment, elle ne lui a jamais pardonné. Et je me suis demandé, c'est quoi la trahison? Mais c'est de la trahison, mais c'est horrible. Donc, dans ce livre-là, il y a de tout. Il y a de la trahison, il y a de la fidélité, il y a des gens qui sont asexuels. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens se trompent? C'est ça.
Oui, parce que puis il y a des gens qui, même qui ont des histoires un petit peu hors normes, comme cette polyamoureuse, Carole.
Carole est une polyamoureuse, oui. Carole, elle est lesbienne. Elle aime charmer, elle a une blonde, elle a rencontré une autre femme pendant ce temps-là. Et elle avoue que les deux veulent mon bonheur. Elle m'aime beaucoup Elle l'aime beaucoup, même à un moment donné, parce que là, c'est vraiment intime ce qu'on entend, ce qu'on peut lire dans ce livre-là. Même les deux blondes de Carole ont déjà eu des rapports sexuels une fois à trois. Mais non, c'est vraiment très compartimenté. Donc, il y a Carole et les deux blondes. Et le gros, ce qu'elle aimerait beaucoup... Carole, c'est que se marier avec ces deux blondes.
Ah oui, qu'on lui permette de le faire.
Ouais. Bon. Et donc je me demande, est-ce que notre société est assez ouverte pour accepter ces nouveaux patterns?
Et la question, c'est ça. Parce que là, elle rêve aussi d'acheter un duplex à trois, puis de faire vraiment un ménage à trois. Bon, est-ce que évidemment là. On a parlé du mariage gay, on a parlé de toutes sortes de choses, mais là, évidemment, là, c'est autre. Ouais, c'est ça. Là, on est à trois partenaires, finalement.
Trois partenaires. Et c'est ça qui est intéressant, c'est dans ce livre, c'est voir tous les patterns amoureux, tout. Ben, en fait, tu sais, parler de sexualité, c'est parler de la vie. Il y a autant d'histoires sexuelles que d'individus sur Terre. Mm-hmm. Et après avoir lu donc ces 50 récits...
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Est-ce que ça nous montre... Est-ce qu'on est à même de se comparer un peu à travers ces histoires-là? Est-ce que ça nous réconforte parce qu'on se retrouve parfois dans certaines histoires? Est-ce que...
Ça nous réconforte. Moi, je me rends compte qu'on ne parle pas assez de sexualité. Quand j'ai préparé cette chronique, là, oui, d'ailleurs, Sylvia Galipo, je lui lève mon chapeau, elle posait carrément aux intervenants, est-ce que vous vous masturbez? Donc, vraiment, je veux dire, faut vraiment...
Elle allait dans le détail. Et les gens, livraient carrément.
Les gens se livraient.
Et avec une certaine facilité aussi.
Facilité, mais moi-même, je me suis promenée avec le livre sur une terrasse. Parce que je suis partie du bureau et je me suis promenée avec le livre sur une terrasse. Et il y a des inconnus qui m'ont parlé du livre, qui m'ont dit « qu'est-ce que vous lisez ?» et qui m'ont raconté mais leur vie sexuelle pointue de chez pointue. Donc, je me suis rendu compte qu'on est quand même dans une société muselée. Et que c'est très tabou de parler de notre vie sexuelle, alors que dans les médias, on ne parle que de ça. On parle de toujours dans les magazines. Ouais. On parle toujours faire l'amour, réinventer l'amour, réinventer
la
sexualité.
On en parle souvent de la même façon.
De la même façon, mais les individus entre eux parlent rarement de sexualité. C'est clair qu'on ne peut pas parler de notre vie sexuelle dans un bureau. Et même ce que je me suis rendu compte, entre eux, ils ne se parlent pas, les gens, de leur vie sexuelle. Il y a beaucoup, dans ces histoires-là, je me suis dit, s'ils avaient été capables de communiquer davantage ces couples-là sur leur vie sexuelle, il n'y aurait pas eu autant de drames.
Ouais. C'est parce que je pense, ouais, qu'on n'en parle pas suffisamment entre nous, dans les couples.
On n'en parle jamais. Et on devrait même, dans les écoles, parler de sexualité.
Il y a une pression. C'est sûr que dans les écoles, bon, ça, c'est sûr qu'on a, on le sait qu'on a un manque à ce niveau-là présentement. Là, c'est sûr, l'éducation sexuelle, là, on repassera. Là, c'est pas encore. Ben oui, on en parlait un petit peu autrefois, mais enfin, ça s'est un peu perdu, j'imagine. Et puis, c'est-à-dire que l'autre affaire, c'est que moi, je pense que dans les écoles aussi, ben, peut-être apprendre à devenir de meilleurs êtres humains, c'est très, très important parce que est-ce qu'on n'est pas à l'image, finalement, de notre sexualité? Notre sexualité est à l'image de ce que nous sommes, c'est ce que je veux dire.
Oui, de ce que nous sommes, est-ce que. Et aussi. Des dictats de la société, c'est que...
Oui, c'est ça, exactement. On a des injonctions, on a des... on entend toujours parler, effectivement, dans les médias, dans les rencontres, que ce soit, bon, à la radio, on parle... Bien sûr, les sexologues qui nous disent, bon... Ils nous disent, finalement, un petit peu comme une recette, là, pour bien pimenter notre vie sexuelle. Mais enfin, je veux dire, il faut penser qu'il y a des gens qui n'en ont même pas de vie sexuelle et qui, parfois, aimeraient en avoir, mais n'en ont pas, et d'autres qui n'en veulent pas aussi. Alors, tu sais, il y a toutes sortes, aujourd'hui, d'enjeux par rapport à la sexualité, puis il y a toutes sortes de modèles maintenant aussi.
Oui, c'est drôle, Chantal, parce que justement, dans le livre, il y a Charlie, 23 ans, elle est asexuelle. Alors, Charlie aime la tendresse, mais pas le sexe. Elle aime Frenchie, mais pas baiser. Elle aime les filles et les garçons, mais il est hors de question pour elle d'être en relation. Charlie est anarchiste relationnel. Et surtout asexuel.
Oui.
Et d'ailleurs, elle a fait cette confidence à la journaliste Sylvia Galipou. Je rappelle, on parle ici du livre Derrière la porte, 50 récits intimes aux éditions La Presse.
Donc, un condensé de 8 années de chroniques qu'elle a fait dans La Presse.
Oui. Et donc, c'est
ça.
Il y
en a encore, d'ailleurs.
Elle était très contente. Elle était très contente de parler à la journaliste pour dire « Je suis atypique. Je suis asexuelle. » Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce livre. C'est qu'on voit des témoignages humains, vibrants, chaleureux, sans filtre. Et on devrait... en fait, c'est ça. En lisant ça, j'ai dit « Mais comment? » Mais c'est fou. Dès qu'on ouvre la porte, c'est pas derrière la porte, c'est ouvrir la porte. On préfère un autre livre. Ouvrez la porte, s'il vous plaît.
Oui.
On dirait que les gens ont tellement besoin de parler
c'est
de leur vie sexuelle.
C'est comme si, derrière la porte, là, c'est comme si on était un petit peu voyeur. Mais quand je voyais les chroniques, mais en fait, c'est que, oui, c'est ça, faut ouvrir la porte, comme tu dis.
Faut ouvrir la porte sur la discussion. Et en parler, par exemple, à l'aube de la soixantaine, c'est on dirait qu'à l'aube de la soixantaine, on pense que les gens ont plus besoin de tendresse et moins de vie sexuelle. Il y a aussi les rapports sexuels quand on est dans la vingtaine, la soixantaine, avec qui il y a beaucoup maintenant des jeunes avec des plus vieux. Il y a plein de modèles sexuels qui sont encore tabous et les gens souffrent parce qu'ils ne sont pas capables de se libérer, de lier la langue. Il y a ce livre-là. Je veux dire, il n'y a pas tellement d'émissions de sexualité au Québec. Là. Je pense que j'en ai vu une ou deux, mais avant, il y avait « Sexe et confidence » avec Louise-André Saunier qui est décédée il n'y a pas si longtemps. On parle peu de sexualité, que ce soit à la radio, à la télé, dans les... Je veux dire, la presse le fait avec cette chronique « Derrière la porte », mais je pense que c'est un véritable enjeu de société. On pourrait en parler davantage.
Bien sûr que oui, puis bon, on parle que ce soit l'hétérosexualité, enfin, ou l'hétéronormativité, l'homosexualité, la bisexualité, enfin, quelle que soit notre identité de genre, c'est sûr que ça fait partie des besoins fondamentaux, mais comme je le dis, bon, il y a toutes sortes de façons de vivre ça, et puis c'est ça, c'est là que peut-être qu'on parlait toujours trop d'une certaine façon de faire, et puis comme si c'était aussi obligatoire d'avoir une vie sexuelle épanouie, alors que, bon, ça peut être, effectivement, il y a des gens qui sont qui n'en veulent pas de sexualité dans leur vie, ou enfin, tu sais, il y a toutes sortes de choses, finalement, à considérer là-dedans. Et puis, bon, il y a tout l'enjeu de la dimension santé mentale là-dedans. Enfin, il y a plein d'enjeux de société, puis d'enjeux de santé publique.
Mais il y a des gens qui n'ont pas de vie sexuelle parce qu'ils ont des problèmes physiques ou mentaux, parce qu'ils ne peuvent pas, c'est hors de leur contrôle. Mm-hmm. Je veux dire, il faut être en santé quand même pour avoir des rapports sexuels.
Ben oui, puis c'est ça, il y a plein de considérations à y avoir. En tout cas, chose certaine, ça peut être une piste intéressante, là, d'aller explorer, voir ce que les gens vivent dans leur intimité. Et puis, c'est sûr que, bon, puis toutes sortes de manières de vivre. Et si ça peut nous apporter, finalement, si ça peut nous aider à se questionner nous-mêmes par rapport à ce que nous sommes, ce que l'on veut vraiment, ben, c'est ça, parce que ce que nous sommes, ben, je veux dire, c'est déterminant par rapport à notre propre sexualité. Oui. Et puis aussi, ben, je veux dire, il y a toute la dimension, le couple, tu sais, ben, encore dans la société, il y a toujours cette espèce de, tu sais, juste l'importance qu'on accorde au couple aujourd'hui, hein, c'est quand même phénoménal. Alors que dans le fond, bien des gens vivent seuls.
Ben oui.
Alors, mais tu sais, c'est comme si la norme, c'était de vivre en couple.
C'est 19% des Canadiens.
Si t'es pas en couple, c'est comme si c'était...
19% des Canadiens vivent seuls, 12% en Ontario et 8% en Nunavut. Bon. Donc, on est, en fait, les Canadiens sont...
Ouais. Ben non, alors, ça influe sur, bien sûr, notre vie sexuelle. Et puis, bon, ben, en tout cas, il y a toute une réflexion à y avoir.
19% au Québec,
et beaucoup d'acceptation, beaucoup d'ouverture que ça prend, mais beaucoup de maturité émotionnelle
absolument.
Dans nos relations amoureuses. C'est fou comment on n'a pas cette maturité toujours. Hein,
Et tu vois, c'est déterminant. Tu vois, lorsque j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que je vais faire avec cet héritage? Parce que c'est un héritage de lire quelque chose comme ça. Je me suis dit, les gens ne parlent pas assez de leur sexualité et tous ces témoignages, j'ai senti qu'à chaque fois que quelqu'un se livrait à la journaliste Sylvia Galipo, il se sentait libéré d'un fardeau. Alors, c'est juste un témoignage. On parle de témoignage dans un livre, mais juste dans la société, chaque jour, les gens ont besoin de parler de leur vie sexuelle, voir est-ce que je suis normale? J'avance en âge, vécu ci, j'étais mariée, je suis plus mariée, je suis veuve, je suis homosexuelle désormais, je l'étais pas avant. Il y a plein de gens, leur vie sexuelle se transforme.
Exactement, c'est toujours en évolution, comme l'être humain, de toute façon. Enfin, derrière la porte, 50 récits intimes, sexuels et pluriels, Sylvia Galipo, paru aux éditions La Presse. Ben, c'est ça, c'est une parution qui est toute récente. Alors, merci, Catherine, d'être venue nous parler de ça.
Merci.
Alors, c'était audacieux.
Merci.
Voilà. Merci. Et puis, on continue avec notre émission. On reçoit notre chroniqueuse aînée dans un instant.
Merci. Bye.